Parler histoire avec vous, Valérie Piette, à l'heure de l'intelligence artificielle, notre société questionne sans cesse la rivalité, voire la concurrence entre cerveau numérique et cerveau humain. La révolution en marche de l'IA affaiblirait les métiers intellectuels. C'est pourquoi vous questionnez l'histoire de ces métiers intellectuels. Avons-nous toujours été payés pour penser ?
Eh bien oui, Charlotte, il y a un peu plus d'un siècle, les travailleurs intellectuels, comme on les appelle alors, surgissent dans le monde du travail. Leur histoire est peu connue encore aujourd'hui. Pourtant, tout le monde se préoccupait de ces nouveaux travailleurs.
Comment expliquer cette apparition soudaine et puis cet intérêt nouveau pour cette catégorie de travailleurs ?
Mais le tout début du XXe siècle connaît des avancées législatives importantes, scandant et couronnant en quelque sorte la formation de la classe ouvrière. C'est le temps, enfin, du fameux contrat du travail, du repos dominical, de la loi sur les accidents du travail, etc., etc. Ces avancées significatives oublient de nombreux travailleurs. Pas de contrat de travail pour les domestiques ou les paysans, par exemple, qui pourtant fournissent le gros des troupes de la classe dite laborieuse, et rien ou presque pour ces travailleurs intellectuels.
Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ces exclusions ?
Eh bien, la question sociale, comme on l'appelle, est portée, revendiquée par les associations ouvrières, syndicats, mutuelles. Le combat était rude. Il s'est fait dans la rue. Et cette fameuse classe ouvrière effraye la bourgeoisie, notamment lors des émeutes de 1886. On voit naître, y compris dans notre imaginaire, l'image de l'ouvrier. Constantin Meunier le peint, le sculpte, et nous propose ainsi une représentation du monde du travail. Ces travailleurs sont visibles, regroupés dans les mines ou dans la sidérurgie. Ils ne sont pourtant qu'une minorité de travailleurs, les autres sont dispersés, peu organisés et donc oubliés.
Et la Première Guerre mondiale qui arrive, est-ce qu'elle va changer la donne ?
En partie, oui. La petite bourgeoisie, les rentiers, vivent dramatiquement les effets de la guerre. Quand vous vivez de rente ou de vos loyers, comme les petits propriétaires, et que la bourse s'effondre et que plus personne n'arrive à payer un loyer, bah, il n'y a pas de secret, vous essayez de survivre. Cette petite bourgeoisie est amenée à mettre ses enfants au travail, surtout dans le secteur tertiaire qui explose. Tu seras employé, mon fils, et même ma fille. La sténodactylographie explose et devient un débouché important. Pas de souci pour ces jeunes bourgeoises, on leur explique que taper à la machine à écrire ressemble énormément à leur cours de piano. On pianote. Bref, les cols blancs, les employés que l'on oppose souvent trop facilement aux cols bleus, entrent en force sur le marché du travail.
Et ils deviennent en quelque sorte des travailleurs intellectuels ?
Oui, pendant quelques décennies, ils viennent grossir les rangs des professions intellectuelles, professions qui vivent une révolution. Il y a toujours eu, bien évidemment, des savants, des penseurs, on dirait aujourd'hui des intellectuels. Mais jusqu'alors, ils n'étaient pas visibles ou peu, pas de revendications spécifiques. Les journalistes ou professeurs d'université sont très peu payés, voire pas payés. Tous issus de la haute bourgeoisie, ils... Oui, il ne s'agit alors quasi exclusivement que des hommes. Ils donc vivent de leur rente, justement, et peuvent penser, chercher, écrire. Et c'est alors peu perçu comme une profession, un métier. Mais la révolution est en marche.
Que se passe-t-il alors, il y a près d'un siècle, pour les voir apparaître dans le monde du travail, pour que penser devienne un métier ?
Eh bien voilà, parce qu'à l'époque, on note une augmentation des universitaires sur le marché du travail. Il y a de plus en plus de médecins, d'avocats, de juristes. Ils ne sont alors que quelques milliers, mais déjà le monde politique trouve qu'il y en a trop. Au travers de la question de leur nombre, les intellectuels sont donc devenus une question sociale et questionnent le marché du travail, notamment lors des crises économiques et plus encore la question de l'identité au travail et la définition même du travailleur.
Ces travailleurs intellectuels apparaissent donc sur la scène publique.
Oui, on les cherche dans les statistiques du monde du travail, on essaye de les définir, on les désigne couramment comme travailleurs de l'esprit, par opposition aux travailleurs du muscle. Et l'on y comprend les artistes, peintres, musiciens, écrivains, mais aussi les avocats, les médecins, les ingénieurs, les employés, les instituteurs, les journalistes. La crise économique les frappe de plein fouet pourtant, ils ne sont pas épargnés. La clientèle payante pour les médecins se fait rare, elle ne paye plus. Des enquêtes montrent que ces travailleurs restent célibataires, en célibat imposé, car ils n'auraient pas de revenus suffisants pour se marier. Le Bureau international du travail, le fameux BIT, issu de la Société des Nations, commence même à s'intéresser à cette catégorie de travailleurs en instituant en son sein une commission des travailleurs intellectuels.
Et ces travailleurs commencent également à s'organiser.
Oui, depuis les années 20, une confédération internationale des travailleurs intellectuels a vu le jour. La Belgique n'y fera son entrée qu'au début des années 30. Florent Daud, avocat auprès de la Cour d'appel de Gand et vice-président de cette commission, souligne, et je le cite, que le travailleur de l'esprit ne peut pas demeurer isolé. Il parle même de ce tiers-état intellectuel et appelle à l'organisation, je le cite toujours, pour tous ceux qui vivent de la plume, de la parole et de la pensée. Il revendique des caisses de chômage, pose la question des droits d'auteur, de la protection de certaines professions et du titre de ces professions, comme pour les ingénieurs et plus tard pour les architectes.
L'organisation de ces travailleurs de l'esprit n'aura qu'un temps, mais est riche d'enseignements près d'un siècle plus tard.
Oui, et même si ce mouvement fléchira après la Seconde Guerre mondiale, on note néanmoins un intérêt constant pour ces travailleurs et même pour leur corps. Ainsi, en 1948, un médecin alerte sur les erreurs d'hygiène chez ces travailleurs aux mains blanches, travailleurs de tant de professions qui exigent non pas une peine musculaire, mais un effort cérébral, une longue immobilité devant un implacable bureau. Ce médecin souligne toujours que leur cerveau et leur efficience sont aussi nécessaires à la nation belge que les muscles des travailleurs belges. Il pointe également que l'abdomen est le point faible de ces travailleurs. En effet, je le cite, la position assise présente pour les organes abdominaux de multiples inconvénients. Leurs muscles tendent à perdre leur tonicité et donc la paresse gastro-intestinale se fait jour. Donc, si vous êtes travailleur intellectuel, bougez et marchez.
Et prenez un chien pour la promener et faire des sorties. Du coup, je me redresse. C'est vrai que je m'affaisse d'un point de vue abdominal. Merci Valérie Piette.